Bonsoir à chacun d'entre vous. Vous allez bien? Ça va? C'est bientôt les vacances scolaires? Pour ceux qui sont encore à l'école. J'aimerais commencer ce message en fait en vous demandant de faire un petit exercice au début. C'était un peu dommage pour ceux qui étaient sur l'estrade, c'était plus facile pour eux. Et je vous demanderai en fait juste de regarder autour de vous et de balayer la salle. Balayez la salle derrière vous, c'est plus difficile pour le pasteur, premier rang. Allez-y, n'oubliez pas JB au fond. Elisabeth, oui, ça va? Ok, vous allez remémorez-vous ces moments où vous avez juste balayé les gens du regard. Ce soir, j'aimerais parler de ce que j'appelle les célèbres inconnus. Et j'aime beaucoup les célèbres inconnus parce qu'ils sont inconnus. Mais la Bible en parle suffisamment pour relever des traits de caractère incroyables qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en pratique dans notre vie, nous, en tant que croyants. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas... Lorsqu'on lit l'Évangile, on peut lire l'apôtre Paul, on peut lire Pierre, et on se dit, c'est un super homme, il a vécu des choses extraordinaires. Et des fois, on parle juste, la Bible mentionne quelques hommes, quelques femmes comme ça, et relève un trait de caractéristique incroyable qui nous inspire. Et ces hommes sont de la même chair, de la même nature que nous, faits d'os, d'eau, de sang, et tout aussi vivants. Ils ne sont pas forcément meilleurs, et on peut même s'identifier à eux, même si Paul est aussi en fait un homme, mais des fois, son parcours nous fait un petit peu relever une sorte de complexe d'infériorité ou de supériorité. Mais il y a des hommes comme ça où, en fait, on peut relever des caractéristiques incroyables. Et ce célèbre inconnu, c'est Épaphras. Vous connaissez? Ce Épaphras est nommé pas souvent. Et on va lire ce texte dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4 et au verset 12. Verset 13. Je vais lire tout le long dans la version Semeur. J'ai fait de telle sorte à ce que ce soit affiché aussi dans la version Semeur. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Amen. Je voudrais parler de « Dieu cherche des intercesseurs ». Dieu cherche au milieu de nous des gens qui se tiennent à la brèche. Qu'est-ce que l'intercession? Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec l'Église, avec la Bible, et on n'entend pas forcément ça dans les rues, un intercesseur ou j'intercède, on dirait peut-être même plutôt le mot « plaidoirie », on va plaider la cause de. L'intercession, c'est... Ce qui fait que c'est une manière d'aimer. C'est une manière d'aimer notre prochain. C'est une manière de dire, je me mets entre cette personne et Dieu et je te la porte. Il y a quelque temps, on a parlé de l'amour du Père. On a parlé d'amour fraternel. Et l'une des choses que l'on peut faire pour exprimer cet amour, c'est intercéder. Intercéder pour nos frères et sœurs. Intercéder pour notre prochain. Intercéder pour nos membres de la famille, intercéder pour tout ce que nous rencontrons. C'est un acte de compassion où l'on demande la faveur divine. Et dans la Bible, on trouve plusieurs exemples. Par exemple, dans Genèse 18, 20-33, le texte est assez long, Abraham a intercédé pour la ville de Sodome. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas très habitués, normalement, quand même, Sodome, c'est assez connu pour être... Une ville pleine de péchés, d'immoralité, c'est pas top. Mais Abraham a intercédé pour cette ville-là. Il a prié la faveur divine pour que Dieu ne détruise pas la ville de Sodome. Entre autres, c'est parce qu'aussi son neveu Lot vivait dedans. Et il négociait avec Dieu. Il disait, Seigneur, s'il y avait 50 justes, ne pourrais-tu pas épargner cette ville-là? Je paraphrase. Et il dit, oui, si je trouve 50 justes, je ne la détruirai pas. Et puis il négocie encore, il revoit la baisse. S'il y avait 45 justes, ne pourrais-tu pas épargner cette ville-là? Et il revoit encore la baisse. Il continue comme ça la négociation pendant des versets, jusqu'à arriver 10. Le problème, c'est que même dans la ville de Sodome, il n'y avait même pas 10 justes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a dit, s'il y avait 10 justes, je l'épargnerai. Et Abraham a été un instrument pour intercéder. Moïse a intercédé aussi pour le peuple hébreu. Quand le peuple hébreu, après avoir vécu extraordinairement plein de choses, la délivrance de la servitude de l'empire égyptien, ils se sont mis à faire un veau d'or parce qu'ils en avaient marre. Et Moïse a intercédé pour eux. On retrouve ce texte dans Exode, chapitre 32, au verset 11. Alors Moïse supplia l'Éternel son Dieu d'avoir pitié en disant, « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant, « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » Alors, l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il avait menacé. On pourrait en sortir plein parce que la Bible en regorge. Dans le Nouveau Testament, je le résumerai ainsi. Dans Matthieu 4, verset 24, vous savez, Jésus il était connu, il commençait à faire des miracles, donc sa renommée se répandait. Et au verset 24 de l'évangile de Matthieu, du chapitre 4, il est écrit, « Bientôt, on a entendu parler de lui, de Jésus-Christ, dans toute la Syrie. En lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. » L'intercession, c'est un peu ça, c'est amener à Jésus. Et dans le Nouveau Testament, c'était des gens. Ce n'était pas les gens qui étaient malades forcément qui allaient vers Jésus, même si c'était vrai. Mais il y avait aussi ces cas où c'était des gens qui amenaient d'autres gens malades et pas bien à Jésus. C'est parfois un détail qui nous a échappé parce qu'on lit la Bible comme ça, on dit « c'est moi qui suis malade, donc c'est moi qui ai prié pour ma propre maladie ». Mais dans l'Évangile, il nous est rapporté qu'il y a des gens, des amis, des gens sur qui on pouvait compter, qui peut-être ne pouvaient rien faire si ce n'est amener son ami malade à Jésus. Il y a tant de récits comme ça. Et nous sommes appelés à être ces gens. Jésus lui-même a intercédé lorsqu'il était sur la croix. Dans l'évangile de Luc au chapitre 23, il dit ceci, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus a lui-même montré l'exemple. Il est lui-même cet intercesseur. Demandant au Père, il s'est mis entre nous et le Père pour demander « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Nous sommes appelés à l'imiter. Nous sommes appelés à être ces gens qui se réveillent et qui se mettent entre eux. Les gens, l'homme, la femme, celui qui est dans le besoin et Dieu pour l'amener, pour que la faveur divine passe. Si nous sommes assis, je le répète et j'aime le dire encore, si nous sommes assis ici, si nous sommes là, si on peut prier, louer, chanter des louanges à Dieu, adorer Dieu, si on peut avoir cette vie d'espérance, Toutes ces miracles qu'on a vécus, qu'on a vus, qu'on a entendus, c'est parce que des gens ont intercédé pour nous. À quel point c'est important? Même après sa mort et sa résurrection, il intercède encore pour nous, Jésus-Christ. Hébreux 7, 24, 25 dit « Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur, en notre faveur, auprès de Dieu. » Nous sommes appelés à aussi imiter Christ à ce niveau-là, autant que nous le pouvons. Mais revenons à Epaphras. Colossiens chapitre 4, verset 12-13. Epaphras, on ne connaît pas trop. C'est le collaborateur de l'apôtre Paul. Il semblerait qu'il était aussi le fondateur de cette église. Et l'apôtre Paul lui rend ce témoignage. Et il dit, Epaphras, c'est l'un des vôtres. C'est l'un des nôtres. C'est le serviteur de Jésus-Christ. Qui est Epaphras? C'est l'un des vôtres. C'est un gars de Colosse, de la ville de Colosse. Mais c'est aussi un serviteur de Jésus-Christ. Et en tant que tel, qu'est-ce qu'il fait? Il combat sans cesse. Pour qui? Pour vous. Pour nous. Comment? Dans ses prières. Dans quel but? Pour que nous tenions bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Epaphras est l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ. Nous sommes membres de cette assemblée. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Nous sommes les membres les uns les autres. Nous sommes les uns pour les autres, et serviteurs, servantes de Jésus-Christ, il nous incombe de combattre, non pas contre la chair, mais de combattre dans la prière, comme Epaphras. Il combat sans cesse dans la prière. Si nous voulons des victoires, si nous voulons des combats, si nous voulons que la main de Dieu agisse, si nous voulons que ces chaises soient remplies de disciples, si nous voulons qu'il y ait un réveil à Toulouse, dans ce quartier, si nous voulons toucher aussi ces quartiers des Pradettes, si nous voulons que Jésus-Christ aussi se révèle, qu'il se passe encore des choses lors des réunions. Au passage, petite parenthèse, j'ai eu des remontées de l'école du dimanche, le dimanche dernier. C'était incroyable. Merci pour vos prières. Merci pour ceux qui étaient là. C'était incroyable. Les enfants ont été bénis. Les animateurs et les animatrices ont été bénis. Merci pour vos prières. Et vous avez combattu. Et on combat sans cesse. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et on combat pour prendre des victoires, pour aller de l'avant, pour passer des étapes encore et encore et encore. Pour que nous tenions bon dans les difficultés, dans les combats. Et Paul insiste pour parler d'Epaphras. Il dit: il se dépense beaucoup pour vous. Il se dépense beaucoup pour vous. Ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hierapolis. On peut se dépenser tellement, pour tellement de choses, pour des passions, pour être une star de la télévision, pour être reconnu, pour être dans le travail même. Même pour dans le sport, on peut être tellement passionné des choses que l'on aime. Et Epaphras, lui, sa passion, c'était l'œuvre de Dieu. C'était les gens. C'était le salut des âmes. C'était Dieu Et c'est ce qui le motivait à combattre sans cesse. Parce qu'il est l'un des vôtres, il est l'un des nôtres. Nous sommes les uns pour les autres. Nous sommes le corps de Christ. Il nous faut nous réaliser que ce n'est pas le pasteur tout seul, les anciens tout seuls, le groupe de louanges tout seul, le sonorisateur tout seul dans son coin là-bas, le gib tout seul dans leur coin, les ados, les jeunes, chacun un département différent parce qu'il y a une segmentation. Non, on est tous ensemble et on intercède les uns pour les autres. D'ailleurs, ça tombe bien, on est mardi soir, c'est la réunion de prière. Et on prie pour toutes ces choses. On prie pour les œuvres que l'on fait. On prie pour que ce soit efficace, que l'action du Saint-Esprit se passe. On prie pour que lorsqu'il y a le culte, lorsqu'on se rassemble, il se passe des choses, des témoignages comme on a entendu dimanche. Que les gens puissent être percutés. Que nous soyons, comme ça a été dit, nous sommes le sel, nous sommes la lumière. On peut faire plein de choses, mais il nous faut aussi prier, intercéder. C'est l'arme que Dieu nous a donnée. Et c'est Paul qui dit, il combat pour nous, sans cesse, en parlant des paraphrases. Et souvent dans l'évangile, même dans les épîtres, surtout dans les épîtres, il dit, je rends grâce à Dieu pour vous, etc., etc. Et il dit, priez aussi pour moi, pour qu'il me soit donné de connaître les mystères de la parole, de pouvoir le communiquer. Priez pour moi pour que je puisse parler avec hardiesse. Priez pour moi parce que si, parce que cela, pour qu'il y ait une voix pour l'évangile. Prions pour qu'il y ait une voix qui se passe au cœur de la louange, au travers de Let It Shine, au travers de Bouge ta ville, au travers de toutes les actions que l'on peut faire. Au travers des groupes de maison, au travers de tout ce qu'on peut faire, tous les projets, qu'il se passe quelque chose, qu'on les remette au trône de la grâce, qu'on puisse l'entendre mardi après mardi, aux jeûnes et prières. Qu'il puisse se passer quelque chose. Le dimanche, c'est là où il y a plein de personnes nouvelles qui viennent. Prions pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait des paroles qui viennent percuter leur cœur. On peut prendre le temps pour plein de choses quand on est passionné. On peut s'arranger, on peut dire non, c'est pas grave, je vais faire la prochaine fois, etc. Mais est-ce qu'on fait ce même raisonnement lorsqu'il s'agit de dire là, j'ai quelque chose à faire, je dois combattre pour mon frère, ma sœur, mon bien-aimé. Je veux me libérer du temps pour aller dans la communion fraternelle, là où l'armée de l'Éternel se rassemble pour prendre des victoires dans le combat. Prenons-nous à cœur. Parce que nous sommes les uns pour les autres. Le combat, la souffrance, les difficultés par lesquelles chacun on passe, mais aussi en tant que corps, en tant qu'église, nous passons. C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est quoi rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? C'est pas que Dieu règne, mais que Dieu règne d'abord dans notre cœur, que Dieu règne dans l'église, et que Dieu règne dans le cœur de mon bien-aimé, ma bien-aimée, mes enfants, ma famille. Et ça, ce n'est pas l'une des choses les plus importantes qui mériterait qu'on se dégage du temps pour venir prendre des victoires. Ensemble. Les disciples de l'époque le savaient. Ils persévéraient. Il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, etc., etc. Mais il persévérait dans la prière. Et parfois, nous sommes un peu comme... Vous savez, on dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Si on arrête de prier, notre âme, elle meurt. Et parfois, nous sommes un peu comme asthmatiques. On a besoin de ventoline. Donc, on a besoin d'événements pour raviver un peu notre vie de prière. Mais qu'on puisse ne plus être asthmatique, qu'on puisse être guéri de l'asthme spirituel et qu'on puisse dire, Seigneur, je me rassemble pour porter ma pierre. Est-ce que ma prière est-elle importante? Oui. Pourtant, je ne sais pas prier, mais je suis enfant de Dieu. Qu'importe la qualité auditive, le speech, l'art oratoire de ma prière. Dieu regarde au fait que tu aies participé, que tu t'es mêlé au combat, que tu as dit j'ai des défauts, je suis bien imparfait, mais ce que j'ai, je veux te le donner. Et si ce n'est mon intercession avec mes faibles mots, alors je le ferai. Alors au revoir la timidité, au revoir le « quand dira-t-on ?» Au revoir les maladresses ou je ne sais, toutes les choses qui pourraient nous empêcher de prier, de prendre notre place, qu'on soit cette église, ce corps qui crie, qui intercède pour le salut des âmes. Répondre aux temps prévus, des temps de prière, comme les mardis soirs, les temps de jeûne et prière, et puis d'autres rendez-vous de prière, c'est comprendre la réalité et l'importance du combat spirituel. C'est réaliser qu'on a un impact par notre participation, pas par notre spectativation, dans le sens où on assiste et qu'on écoute juste les gens prier. Non, à notre participation, à ce combat, car je suis enfant de Dieu, et que ma prière, mon intercession a de la valeur. Et vous savez, ce mensonge qui dit « mais de toute façon, quelqu'un d'autre priera à ma place. De toute façon, Dieu est souverain, il va le faire. De toute façon, que je prie ou que je prie pas, ça va pas changer. Parce que c'est la souveraineté de Dieu qui va primer. » Mais ça, c'est un prétexte. Parce que dans la souveraineté de Dieu, Dieu a suscité des hommes et des femmes pour intercéder. Dieu aurait pu juste faire tous les miracles qu'il a fait sans intercession. C'est vrai. Mais Dieu, dans sa manière et dans son amour, il nous appelle, il a choisi des hommes, des femmes pour se lever, pour se mettre entre les perdus et lui. Qu'on prie, qu'on intercède. Il a même demandé à Job de prier pour ses amis, bien qu'ils aient fait ce qu'ils aient pu pour le consoler, mais très bien maladroitement. Il aurait juste très bien pu passer par là, mais Dieu a demandé à Job de prier, d'intercéder pour ses amis. Intercéder, c'est comme on l'a dit au début, c'est une manière forte d'exprimer notre amour et notre prochain. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on perçoit d'une certaine manière. Romains 12 dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu qui nous a touchés, on a tous été touchés par la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Je voudrais juste retraduire par le fait que à prendre du temps, à me dégager, à même si je suis fatigué, à me booster, à me motiver pour dire « je vais quand même ». Ok, ça va me faire du bien, mais c'est aussi parce que je veux apporter ma pierre à l'édifice, au combat. Comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, ce sera là, de votre part, de notre part, un culte spirituel. Un culte spirituel. Si on veut rendre un culte spirituel, on se bouge le derrière, on se motive et on répond à la sainte convocation de Dieu pour prendre notre part. Dieu nous appelle, répondons présent, de corps, mais aussi d'esprit. Parce que peut être présent de corps et très absent d'esprit. Et se dire, ouais, de toute façon j'étais à la prière. Mais j'étais un bon spectateur. Non. Autant on fait tous ces kilomètres, autant participer autant qu'on peut. Face à tout cela, on pourrait dire, on pourrait constater que notre monde, va de mal en pis. On pourrait constater que les valeurs, c'est le péché, ça règne partout. On peut constater que notre gouvernement, ceux qui nous dirigent, la politique, tout est corrompu. On pourrait constater que de toute façon, c'est fini. On pourrait condamner les choses, critiquer et dire de toute façon, voilà, c'est sa faute. On pourrait constater tellement de choses. Il suffit de, peut-être des fois, regarder autour de nous et de voir peut-être même tous les défauts, toutes les situations par lesquelles on peut passer, auxquelles on se dit, de toute façon, c'est sa faute, c'est pas sa faute, ou alors le gouvernement est pas bon, ou alors l'entraîneur, il est pas bon, donc on va changer l'entraîneur, ou alors c'est la faute de n'importe qui, ou alors il est comme ça et c'est sa nature. Et puis, son caractère est tellement destructeur que du coup, je préfère l'éviter, l'esquiver. Et je préfère plutôt médire, calomnier. Ou prier, intercéder pour cette personne-là. Ou changer ma manière de percevoir les choses. Et de dire, Seigneur, je veux voir comme toi, tu vois. De ne pas voir aux apparences de ce monde, il est pourri, ces gens sont corrompus, ces gens-là sont méprisables, ils ne sont pas côtoyables, ce n'est pas des gens saints. On peut regarder au péché, constater le péché, ou alors regarder comme Jésus a regardé, c'est-à-dire aux pécheurs, aux besoins de la délivrance, aux besoins du salut. Quand Jésus est venu sur la terre, moi j'imagine un petit peu Jésus qui arrive sur la terre, lui, super saint, extraordinaire, saint, saint, saint. Il voit et constate cette humanité perdue. Et il voit tous ces gens qui viennent à lui demander la grâce, la bénédiction. Et il est guéri. Il y en a qui viennent et ils sont reconnaissants. Et puis, il y en a un certain nombre qui viennent et qui s'en vont avec leur bénédiction. Ingrats. Et il pourrait se dire, Seigneur, Père, pourquoi, 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 pourquoi? Non, il a vu beaucoup plus loin. Quelque chose qui nous dépasse. Il n'a pas condamné cette humanité. Il est venu pour sauver. Alors que lorsqu'on est face à ces situations auxquelles on peut condamner, on pourrait tout simplement dire, Seigneur, moi je comprends rien, voici comment je pronostique. Voici, Seigneur mon Dieu, je veux voir comme toi tu vois. Parce que c'est toi qui diriges toutes choses. Et dans ton amour, je veux faire comme toi tu as fait. Tu intercèdes pour lui, j'intercède pour lui. Tu intercèdes pour ce monde, j'intercède pour ce monde. Parce que comme toi tu m'as aimé, alors je veux aimer. Comme toi tu as marché sur cette terre, je veux marcher sur cette terre. S'il me manque de l'amour, de la compassion, alors Seigneur, je t'en demande. Donne-moi la compassion des âmes. Donne-moi l'amour pour mon prochain. Donne-moi de pouvoir le supporter. Donne-moi de savoir avoir les bonnes paroles. Mais la meilleure chose que je peux faire pour ces problèmes, ces difficultés, c'est de prier pour, c'est d'intercéder. Et de le prendre à cœur. Dieu cherche des intercesseurs. Ézéchiel 22, verset 29-30. Voici le constat de Dieu. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. On pourrait constater juste cela. On pourrait dire, Abraham aurait pu dire, Sodome, c'est fini, de toute façon, c'est la capitale de l'immoralité sexuelle et de tous les péchés du monde entier. À quoi bon prier, intercéder pour ses habitants? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et là, on pourrait constater, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Mais Dieu cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant lui en faveur du pays, afin qu'il ne le détruise pas. Dieu cherche des intercesseurs. Alors qu'on puisse répondre à ce mandat. Ce n'est pas à un pasteur, à un responsable ou à quelqu'un d'extrêmement spirituel. Il en incombe de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les membres les uns des autres. Et quand l'un est touché, c'est tout le corps qui est touché. Alors levons-nous, prions, prenons part au combat et gagnons la victoire. Prenons encore des victoires. Qu'il se passe quelque chose les dimanches. Qu'il y a encore des prodiges, des miracles, que notre Église grandisse, que nos Églises grandissent. Ce n'est pas que Toulouse-Ouest, c'est l'affaire de l'Église avec un grand E. Que l'Évangile se répande, que des âmes soient sauvées et qu'on puisse prendre part à notre part à notre camp, enfin, qu'on puisse poser notre pierre à l'édifice. Prenons conscience de tout cela. C'est peut-être quelque chose qu'on a entendu intercéder, oui, ok. Je voudrais juste nous rappeler l'importance et à quel point c'est encore d'actualité aujourd'hui et qu'il faut qu'on prenne à cœur. Epaphras l'a fait et il nous montre cet exemple-là. Il a combattu sans cesse et il s'est dépensé beaucoup pour Colosse, Laodicée et Hierapolis, alors qu'on puisse combattre sans cesse, se dépenser beaucoup pour l'œuvre de Toulouse-Ouest et même de l'Église de manière générale. Seigneur, viens nous réveiller, je t'en prie. Nous voici devant toi et je te prie, Seigneur, vraiment de nous ouvrir les yeux, de ne pas voir comme nous on voit, de ne pas voir aux défauts, aux qualités, de ne pas voir en apparence, mais de voir au cœur, de voir que mon frère, ma sœur est précieuse. Que mon frère, ma sœur passe aussi par des situations difficiles, compliquées, qu'il y a des combats. Et je prie pour qu'il y ait la victoire. Donne-moi à compatir. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, donne-nous à être comme toi tu as été quand tu as vu ces hommes et que tu étais ému de compassion. À tel point que tu as prié pour nous, l'humanité, que le Père nous pardonne car on ne savait pas ce qu'on faisait. Lorsqu'on était ignorant de toi. Seigneur, je t'en prie, qu'on puisse réaliser la réalité, l'importance du combat spirituel, qu'on puisse arrêter de s'éparpiller sur différentes choses, mais réaliser l'importance et de comprendre vraiment ce que c'est que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Viens nous aider, même si on est fatigué, malade, avec plein de problèmes des fois dans notre tête, plein de problèmes, plein de situations. Seigneur, on veut prendre à cœur ces choses-là et on veut briller. Seigneur, on a chanté ta fidélité, on a chanté ta bienveillance, on a chanté tellement de choses qui sont des réalités dans notre vie et on voudrait les partager. On voudrait te faire confiance alors que nous prenons part à ce combat. Seigneur, viens nous réveiller, je t'en prie. Viens nous réveiller. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.